l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Saint-Cirq-la-Popie, 92.5.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur les fréquences de Présence. Nous sommes en direct des studios de Lourdes, il est 12h et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est le Présence Midi qui débute dès maintenant avec, je vous présente le sommaire, et bien dans quelques instants, la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, Jérôme Bail sera à l'honneur. Qui est-il? Eh bien, vous avez peut-être entendu parler de lui puisqu'il dirige une exploitation de 230 hectares en Haute-Garonne, sur les collines du Volvestre, où il élève une centaine de bovins et il produit ses propres céréales. Il a été reconnu un petit peu célèbre pour avoir bloqué l'autoroute A64 au niveau de Carbonne lors du blocage des agriculteurs. Nous en saurons un petit peu plus sur ses actions et sur l'avenir de la production agricole. Avec lui, ce sera donc la chronique verte dans quelques instants. Nous aurons également le frère Martin de l'abbaye de Tournai qui nous présentera son ouvrage et son coup de cœur en librairie, Comme un arbre vers le ciel. Les informations régionales, bien sûr, ce sera aux alentours de 12h30. La chronique solidaire de Anne Deslois. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au CCFD international avec Joseph Nigezi, qui nous présentera son action dans son pays, en Afrique. Et puis enfin, l'auteur du jour qui a arpenté nos belles Pyrénées, ce sera Simone Arnaud. Voilà le sommaire.
Des perturbations et annulations de vols Transavia sont possibles dans les prochains jours au départ et à l'arrivée de Toulouse. Les voyageurs sont invités à vérifier leur réservation avant de partir à l'aéroport. La région Occitanie lance la première édition du concours d'éloquence voix plurielle destiné à des étudiants exilés afin de sensibiliser le public au parcours migratoire et à l'intégration. Un jeune Haut-Garonnais participe au Youth 7 et porte plusieurs propositions sur les enjeux climatiques, écologiques et technologiques auprès des dirigeants du G7. Dans le Lot, un vautour du Rocher des Aigles retrouvé sain et sauf après plusieurs heures d'inquiétude pour les soigneurs du parc animalier. La transhumance débute dans les Pyrénées ariégeoises avec les premiers départs des troupeaux vers les estives de montagne. Et puis enfin pour finir à Roland-Garros, le Toulousain Hugo Gaston s'est arrêté au deuxième tour après sa défaite face à l'Argentin Francisco Creundolo en 4-7 malgré un bon début de match.
Retour de l'information dans une petite demi-heure.
Présence à Figeac, 97.7.
Allez, nous retrouvons, comme tous les vendredis, Benoît Guillard pour sa chronique verte.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouverons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait le choix de rester à Vic-en-Bigorre, puisque le cinéma L'Atelier à Vic-en-Bigorre, avec la collaboration de la MSA, nous a invités à voir le film rural. Alors, ce film rural, peut-être que vous en avez entendu parler, chers auditeurs, c'est un documentaire qui est sorti en mars 2026. Son héros, c'est Jérôme Bail, l'agriculteur qui a lancé le mouvement des ultras de l'A64 en janvier 2024 et qui est devenu presque malgré lui le visage de la colère agricole française. Jérôme Bail élève une centaine de bovins sur 230 hectares dans les collines du Volvestre, en Haute-Garonne. Après le suicide de son père en 2015, il a repris la ferme familiale et c'est depuis ces collines qu'est parti en fait en janvier 2024 un mouvement qui allait embraser toute la France. Le réalisateur de ce film, c'est Édouard Bergeon. C'est aussi l'homme qui avait signé Au nom de la terre 2019, que vous avez peut-être vu. Le film avec Guillaume Canet qui relate l'histoire et le suicide de son propre père agriculteur. Avec Rural, il revient à ses racines, mais cette fois caméra au point, dans le réel, sans acteur ni scénario, puisque c'est un documentaire, sans voix off, ni intervention extérieure, uniquement avec Jérôme Bail, qui est montré dans toute son authenticité. C'est un homme charismatique, amoureux du rugby, pétri de ses valeurs, déterminé, mais pas belliqueux. Aussi à l'aise sur son tracteur que dans les couloirs de Matignon. Il défend l'agriculture des territoires, peu importe qu'elle soit bio ou conventionnelle. Ce film rural nous plonge donc dans le Volvestre, dans cette région du Volvestre, cette petite région agricole qui se caractérise par cette zone intermédiaire, aujourd'hui en grande difficulté, avec une agriculture familiale, comme dans les Hautes-Pyrénées, qui se bat pour exister. Et ce film n'est pas qu'un film du sud-ouest rural. Actuellement, on n'en finit pas de remplir les salles depuis sa sortie nationale début mars. Ce magnifique documentaire brosse le portrait vibrant et touchant de l'agriculture familiale française d'aujourd'hui à travers le parcours et le témoignage de cet éleveur. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi les deux hommes derrière ce film, Jérôme Bail, lui-même, et François Pursaigle, sociologue, directeur d'Agro Toulouse, co-auteur du documentaire et chercheur qui, chaque année, prend le pouls des agriculteurs français à travers l'enquête Vox Agri. Jérôme Bail, donc, et je sors de la présentation du film rural, film magnifique que je vous recommande d'ailleurs si vous avez l'occasion, et puis surtout du témoignage de Jérôme, puisque ce film brosse son portrait vibrant et touchant d'une agriculture familiale française d'aujourd'hui. Et au travers le parcours et le témoignage de l'éleveur qu'il est, Jérôme, aujourd'hui. Jérôme, deux petites questions. D'abord, au préalable, comment est venue cette idée de tourner ce film ?
Alors, comment ça m'est venu ? C'est pas venu de moi, puisque moi j'avais refusé entre 15 et 20 projets comme ça, bien avant. C'est tout simplement une rencontre avec Édouard Bergeon, le réalisateur du film Au nom de la terre, sur le suicide d'agriculteur, qui a fait que, grâce à François Pursaigle, le co-auteur du livre, du film, qui a fait que, tout simplement, on s'est rencontrés, on a discuté, on a échangé, et on a voulu amener un message positif pour cette agriculture, et surtout montrer cette agriculture des pieds des Pyrénées, ou des Pyrénées, tout simplement, qui méritent d'exister, qui méritent d'être vues, voilà. C'était un film pour mettre en avant cette agriculture, nos territoires, et surtout laisser une image positive, parce que pendant... On parle trop souvent d'agriculture à négatif.
Et là, par exemple, ici, puisqu'on est dans les Hautes-Pyrénées, avec en Bigorre, à la sortie d'un film comme ça, comment tu perçois les agriculteurs ? Comment ils peuvent percevoir, justement, au travers de leur regard, ce que tu leur dis, ce que tu leur témoignes ?
Mais ça s'est vu ce soir, ils l'ont retranscrit déjà avec des émotions, des rires, des joies et des applaudissements, et l'image fracasse. Frappante, c'est que la séance est finie depuis 10 minutes ou un quart d'heure. On a fait plus d'une heure de débat, personne ne s'est levé, personne n'est parti. Et là, tout le monde est dehors en train de parler et de reparler. Et ça, c'est des images fortes. Ça prouve qu'on a sensibilisé les gens, on a touché les gens et on a peut-être donné des idées aux gens pour un avenir et un avenir joyeux et radieux pour notre agriculture.
Alors Jérôme, dans le film, il y a aussi un témoignage fort de ta part au travers de l'histoire du suicide de ton papa. Hein. Et puis en même temps, ce jeune qu'on voit là, qui arrive de la ville, de Metz, et qui tout de suite a les étoiles dans les yeux autour de ce que tu lui proposes, autour de ce que propose ta maman, Lucienne. Et j'ai envie de dire, c'est aussi ça le message, c'est de dire que l'agriculture d'aujourd'hui, c'est surtout plus ce que tu as vécu avec ton papa, mais c'est plutôt des gens avec des étoiles.
Ben, c'est que c'est tout simplement faire continuer à vivre ce que nous on a vécu et faire perdurer ben, nos traditions, notre histoire, notre savoir-faire, le savoir-faire de cette agriculture ben, d'ici, parce qu'un agriculteur, un agriculteur occitan et du Volvestre, ben, il n'est pas agriculteur comme un mec dans la Beauce tout simplement ou dans le nord de la France. Donc continuons à vivre, faire vivre ben, avec fierté et, ce qu'on vit, ce qu'on nous a appris, et il faut le retransmettre. Normalement, la connaissance s'expatrie, et bien, continuons à le faire. Et je pense que si on veut bien, redorer encore plus notre image, bien, il faut impliquer ces jeunes, donner la chance à ces jeunes qui rêvent, comme tu l'as dit, qui ont des étoiles pleines les yeux, et il ne faut pas leur fermer les yeux, il faut au contraire leur ouvrir, leur dire que oui, il y a des moments où c'est joli, il y a des moments où c'est dur, et il faut les accompagner là-dessus, et je pense que c'est ce que je fais avec le petit Ivan.
Alors, on n'a pas François Purcell, il n'était pas avec nous, mais j'avais quand même une question pour vous deux, entre guillemets, parce que c'est quand même une rencontre. J'imagine que c'est une rencontre entre Jérôme Bail, l'éleveur du Volvestre, et puis François Purcell, le chercheur, le sociologue. Et comment vous êtes retrouvés et comment cette idée est née, en fait ?
Ben, c'est lui qui m'a contacté, il m'avait contacté et... Mais il était venu à Carbone en 2024, il avait fait une émission et après il a été intrigué un peu par ce qu'on représentait, comment, pourquoi on s'était battu dans ces territoires où on parle peu. Donc voilà, il est venu, ça a matché et on a continué à travailler ensemble, et on continue à travailler ensemble bien sûr, et à faire la promo mais, de cette agriculture. De lui par son côté mais, un peu sociologue, moi avec mon côté terrain, et c'est dommage qu'il ne soit pas là parce que vous aurez vu que et bien, entre un penseur et un faiseur, et bien, il y a une grosse différence parce que lui il pense tout le temps que on peut trouver des solutions, et moi je lui prouve à plus B que des fois c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Voilà, et aujourd'hui ben, c'est souvent cette déconnexion qu'il y a entre ces gens dans les bureaux. Alors je ne veux pas dire de lui personnellement, mais des gens aujourd'hui dans les bureaux qui veulent des hauts fonctionnaires, qui veulent décider pour nous tout simplement dans nos campagnes, mais ce qui est réalisable peut-être dans un bureau n'est pas réalisable sur le terrain, et c'est la différence entre eux et nous, quoi, voilà.
Juste dernière question, Jérôme, parce que j'étais très touché par ton message, là, justement par rapport aux jeunes. Par rapport aux jeunes et à la foi, en fait. C'est une question de foi. Il faut avoir la foi dans ce métier. Il faut y croire, c'est ce que tu dis, hein. Il faut y croire. Et notre société, elle ne fait que montrer le visage difficile de ce monde, et en particulier de l'agriculture. Et donc, ce film, c'est aussi un témoignage, c'est un témoignage d'espérance.
Oui, mais le film est positif. On n'a pas voulu faire un film à charge contre l'agriculture ou un film négatif. C'est bon, aujourd'hui, tout le monde sait que le monde agricole va mal. Maintenant, une fois qu'on a fait le constat que le monde agricole va mal, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il aille bien ? C'est ça la vraie question. Donc nous, on a voulu montrer qu'aujourd'hui, un pauvre mec issu d'une famille plus que modeste, voire une famille pauvre, dans un village de 2000 habitants, il est capable de rentrer jusqu'à l'Élysée, tout simplement, en étant déterminé, en étant franc, en étant honnête, et en disant ce qu'il pense. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça fait partie de notre métier d'y croire, d'espérer, puisqu'on sème, on fait des saillies, on veut faire des naissances, donc on espère que ça va toujours bien. Mais continuons à espérer, continuons à nous battre, restons déterminés. Et moi, je pense que ça peut que bien se passer.
En tout cas, merci Jérôme, merci pour ce message. Merci pour ce message qui va être transcrit dans toutes les Hautes-Pyrénées, parce que je pense que cette agriculture, elle pèse. Elle a une place importante ici, comme chez toi, comme dans le Volvestre. Et c'est important qu'il y ait des gens comme toi qui témoignent. Merci infiniment.
Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette agriculture, il n'y a pas que l'agriculture qu'il faut mettre en avant. Aujourd'hui, c'est ce monde rural, c'est ces territoires oubliés. Et les territoires qui sont de plus en plus dans le dur. Donc je pense que le film rural, on l'a appelé rural pour montrer que ouais, même si on ne représente pas beaucoup de la population, on est assez pour se faire entendre et surtout être déterminé.
En tout cas, chers auditeurs, si vous avez l'occasion, allez voir ce film. Si vous pouvez croiser Jérôme, ce sera encore mieux. Merci infiniment en tout cas.
Merci à vous.
Merci.
La chronique verte de Benoît Guillard, une chronique que vous allez pouvoir retrouver dans deux petites minutes sur le site de la radio, radioprésence.com. N'hésitez pas à aller farfouiller dans le site et à écouter tout ce que vous avez pu manquer sur notre radio. Dans quelques instants, nous allons trouver le frère Martin de l'abbaye de Tournaille qui nous proposera son coup de cœur en librairie, comme un arbre vers le ciel, juste après Il Divre.
me abbandona e s'assume, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue.
Una vez más, tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido.
Regresa a mí. Se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado.
A mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que alguien te metió cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar. Eres a mí.
Abandones así,
hablando solo de ti. Devuélveme la pasión de tus brazos.
Unbreak my heart, ne brise pas mon cœur.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Et direction l'abbaye de Tournaille, où va retrouver Anne-Rose Jankovic, le frère Martin. Tous les 15 jours, il nous propose son coup de cœur en librairie.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour à vous qui nous écoutez.
Merci d'être là pour une nouvelle chronique littéraire. Vous allez aujourd'hui nous présenter un ouvrage de Benoît Vermander, Comme un arbre vers le ciel. Déjà, rien que le titre fait rêver. La couverture du livre que vous tenez entre vos mains au moment où nous enregistrons fait rêver aussi, très fleuri. Vous allez nous dire dans quelques instants de quoi il s'agit, mais peut-être nous dire d'abord qui est Benoît Vermander.
Alors, Benoît Vermander est un jésuite, mais qui ne vit pas en Europe. Il vit vers Shanghai et tout. Il a beaucoup côtoyé, voyez, la culture asiatique, la Chine. Enfin, donc, il a rencontré dans sa vie d'autres cultures et d'autres traditions spirituelles et d'autres religions.
Qui l'ont inspiré, j'imagine, pour écrire donc Comme un arbre vers le ciel. Voilà. C'est un livre de poésie, de prière, de méditation. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un livre qui nous invite à rentrer dans la prière, à partir justement du constat que d'autres personnes vivent une spiritualité, sont dans une autre religion. Et puis nous, en tant que chrétiens catholiques, quelle est notre spécificité ? Et nous avons déjà reçu la prière depuis le Seigneur, et puis il repasse à travers des textes bibliques, à travers les grands textes de prière qui font la matière de la liturgie des heures, hein, les psaumes,
ah oui.
Voilà. Et ensuite il va vers les évangiles, et vraiment il nous montre un chemin de prière, et c'est vraiment, je vous invite à vous plonger dans ce livre pour revivifier votre façon de prier.
Alors c'est pas de l'exégèse ?
Non.
C'est vraiment une méditation sur...
Comment prier.
Comment prier.
Ouais, c'est des pistes pour prier.
Alors peut-être que vous pouvez sans tout nous dévoiler, nous donner un exemple, une des pistes pour prier. Qu'est-ce qu'il nous conseille ?
Moi, la plus grande piste qui m'a marqué, parce qu'il démarre, quand il parle de la prière chrétienne, il a parlé du Notre Père. Ah. Et en fait, la prière pour nous, c'est aussi quelque chose qu'on reçoit. Je prie, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui prie en moi, et c'est, je prie parce que Jésus est venu parmi nous, qu'il a agi, et que ce qu'il a dit est la matière de notre prière.
Mmh.
Et donc c'est intéressant d'être dans une attitude de réception et de nous ouvrir, évidemment en tant que moine bénédictin, à la parole de Dieu, la méditer et la faire grandir en nous, quoi.
Il y a une place pour le corps dans tout ça ?
Il y a une place pour le corps, et je trouve très intéressant aussi, il dit qu'il y a cette dimension de prière personnelle, d'écoute de la parole de Dieu, mais aussi prier ensemble. Et il me semble que voilà, nous sommes par cela à l'unisson de ce que nous essayons de vivre dans notre diocèse et dans d'autres églises particulières, et bien de nous rassembler quelquefois, juste quelques chrétiens, pour prier ensemble dans l'esprit de la liturgie des heures, vivre un temps de prière autour de la parole de Dieu. Et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que découvrir que la prière a une dimension personnelle, mais chacun est invité à pouvoir prier les uns avec les autres là où il est.
C'est-à-dire que l'intimité avec Dieu, elle se vit aussi quand on est en communauté ou
tout
en communion
fait.
De prière.
Oui. On est ensemble sous le regard de Dieu, et évidemment il insiste beaucoup sur la dimension de louange, dire merci. Si on a dans l'idée que la prière est une intercession, certes nous avons apporté nos frères et sœurs à l'humanité qui vivent des situations difficiles, mais nous avons aussi à rendre grâce pour ce que le Seigneur fait dans nos vies et le célébrer ensemble. C'est ce que nous vivons à l'abbaye plusieurs fois par jour avec la liturgie des heures.
Est-ce qu'il s'agit, pour commencer, d'être dans un esprit de contemplation, pour pouvoir méditer et prier, est-ce qu'il ne faut pas d'abord savoir contempler l'œuvre de Dieu, contempler sa vie, contempler
Il faut se rendre attentif.
Se rendre attentif
à ce qui nous entoure. Voilà. Par exemple, commencer par faire un bon exercice et se poser dans la nature et se dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qui est autour de moi. Déjà, si vous commencez à être attentif à ce qui vous regarde, simplement en vous posant dans votre jardin, en allant vous promener, en faisant du vélo, voilà, vous allez vous rendre ouvert.
Comme un arbre vers le ciel, c'est ça précisément ? C'est quand on regarde nous, quand on s'étire vers le ciel, c'est
et
ça ?
Et c'est quand on se tourne vers celui qui nous a créés.
Comme un arbre vers le ciel, donc de Benoît Vermander, c'est paru aux éditions Salvator, 150 pages pour méditer, apprendre à prier ou réapprendre. Coût du livre 15,90 €, disponible à la librairie de l'abbaye Notre-Dame de Tournailles.
Un livre léger que vous pouvez transporter dans votre sac.
Et vraiment très joli, voilà,
avec une
couverture qui fait déjà rêver, comme un arbre vers le ciel. Merci beaucoup.
Merci à vous et bonne découverte.
À bientôt.
Voilà, puis je vous rappelle que dans cette abbaye, il y a une librairie, mais il y a aussi un petit magasin où vous pourrez déguster de très très bonnes pâtes de fruits, voire même certaines qui sont enrobées de chocolat. C'est une petite merveille, je vous encourage à y aller.
Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre. Un seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur, vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je de n'être que témoin de nos actes inhumains et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants qui divisent le tout. Je pense à vous souvent qui piétinez le nom. Je suis déçue, vraiment. Alors je prie le vent qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent pour que ça change. C'est vrai de monter au créneau, alors je chante un peu. Chacun fait de son mieux. Moi je veux vivre, rire libre. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux.
Reconnu bien sûr, c'était la chanteuse Zaz de Couleur Vive.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Et dans nos studios de Radio Présence à Lourdes, eh bien, il est 12h passé de presque 28 minutes. Nous sommes en plein cœur du Présence Midi, ensemble jusqu'à 13h avec au sommaire, dans quelques instants, la chronique solidaire de Anne Deslois. Elle nous parlera aujourd'hui du CCFD. Nous partirons pour cela en Afrique, en compagnie de Joseph Niguezé, qui nous parlera de son action au sein de cette association. Et puis, nous arpenterons les beaux sentiers de nos belles Pyrénées en compagnie de Catherine Albrecht qui nous présentera aujourd'hui Simone Ardo-Houmé avec son ouvrage. Voilà le sommaire de la demi-heure qui nous attend et que je vous propose de débuter bien sûr comme tous les jours avec le journal.
Bonjour à tous. Attention, si vous devez prendre l'avion dans les prochains jours, plusieurs vols assurés par la compagnie Transavia au départ et à l'arrivée de Toulouse risquent d'être annulés ou perturbés entre la fin mai et le mois de juin. En cause, un mouvement social des contrôleurs aériens et plusieurs ajustements de programmes liés au trafic aérien. Les voyageurs sont invités à vérifier que leur vol est maintenu avant de se rendre à l'aéroport, afin d'éviter de mauvaises surprises. La région Occitanie organise vendredi la première édition du concours régional d'éloquence voix plurielle. 20 étudiants exilés venus notamment d'Afghanistan, d'Iran, d'Ukraine ou encore du Venezuela participeront à cette initiative organisée en duplex entre Toulouse et Montpellier. Depuis plusieurs semaines, ces étudiants sont accompagnés par des professionnels du théâtre et de la prise de parole afin de s'exprimer autour du thème de la liberté. À travers ce projet, la région souhaite sensibiliser le public au parcours d'exil et favoriser l'intégration des étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur. Un jeune Haut-Garonnais de 27 ans participe actuellement aux réflexions du Youth 7, le sommet de la jeunesse lié au G7. Arthur Roger, originaire de Haute-Garonne et spécialiste des questions énergétiques, fait partie des représentants chargés de transmettre des recommandations aux dirigeants des grandes puissances mondiales. Parmi les propositions avancées, une meilleure régulation de l'intelligence artificielle, l'adaptation de l'économie aux enjeux climatiques ou encore une réforme du système financier international. Dans le Lot, l'émotion reste forte après la disparition temporaire d'un vautour du rocher des Aigles à Rocamadour. L'oiseau, très attaché à ses soigneurs, n'avait plus regagné son rocher après un spectacle, avant d'être finalement retrouvé sain et sauf. Les équipes du parc racontent avoir vécu plusieurs heures d'inquiétude avant de retrouver l'animal. Un épisode qui a beaucoup marqué les visiteurs, les soigneurs et les habitants sur place. Dans les Pyrénées ariégeoises, la saison de la transhumance débute. Bergers et éleveurs prennent progressivement la direction des estives avec leurs troupeaux. Une tradition ancestrale toujours très vivante dans le département, symbole du pastoralisme pyrénéen et de l'élevage de montagne. Et puis en sport à Roland-Garros, le Toulousain Hugo Gaston a été éliminé au deuxième tour par l'Argentin Francisco Creundolo en 4-7 après 2h46 de jeu. Malgré un très bon début de match, le Français a subi ensuite le rythme et l'agressivité de son adversaire. On écoute maintenant Hugo Gaston au micro de Valérie Poirier.
Je pense qu'il a pris le dessus sur quasiment tous les compartiments du jeu. Avant le match, pour être honnête, mon inquiétude, c'était un peu la chaleur, comment ça allait se passer. Depuis un petit moment, j'ai un petit virus qui m'embête un petit peu quand il commence à faire chaud. Et aujourd'hui, honnêtement, je suis content parce que je sentais que ça allait mieux. La chaleur taper, mais je me sentais bien. Je pense que tactiquement, j'aurais pu faire un meilleur match, mais voilà, il a réussi à m'amener dans ses schémas, à me bloquer, et il faut juste le féliciter.
C'était Hugo Gaston, micro de Radio Présence.
Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Que Deus entendeu de dar a primazia. Vem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Que Deus entendeu de dar toda a magia. Vem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê.
Gilberto Gil sur Présence.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
La chronique solidaire
avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Solidairement Vôtre, nous parlons de solidarité internationale et de développement durable. Avec un invité venu du Burundi, il s'agit de Joseph Nigeze. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour Anne.
Merci Joseph d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur national d'INADES Formation. Alors, c'est une organisation qui est engagée dans le développement rural en Afrique. Bien sûr, vous allez avoir le temps de nous expliquer de quoi il s'agit. Vous êtes de passage en Occitanie, invité par le CCFD Terre Solidaire pour présenter les différentes actions de votre association, entre autres dans le cadre d'un programme qu'on appelle TAPSA. Alors, là aussi, on réserve la surprise aux auditeurs de découvrir ce qu'est TAPSA. Au cours de notre émission, vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous vivez, comment vous êtes engagé, dans le contexte, bien sûr, du Burundi. Alors, pour commencer, Joseph, pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Oui, merci. Moi, je m'appelle Joseph Nigeze. Et je suis burundais et je suis le directeur national du bureau d'INADES Formation Burundi. INADES Formation Burundi est une association sans but lucratif de droit burundais et qui travaille au Burundi depuis 1975. Donc nous venons de célébrer 50 ans de jubilé et de 50 ans d'existence, et 50 ans de travail acharné et au service du bien commun au Burundi.
Et vous-même, Joseph, vous y travaillez depuis combien d'années?
Ah, je suis là depuis 2002, c'est-à-dire que j'ai déjà bientôt 25 ans au service du bien commun au niveau d'INADES Formation au Burundi.
Ça, c'est aussi un jubilé, 25 ans.
Oui, je vais vous inviter, je vais bientôt célébrer mon jubilé de 25 ans au niveau d'INADES.
Alors, l'INADES, on entend donc que c'est une organisation au service de différents bénéficiaires. Comment est-ce qu'on peut dire? Vous vous adressez auprès de qui ou directement à qui sur place au Burundi?
Oui, voilà. Permettez-moi d'abord de vous parler d'INADES dans l'ensemble. Et comme je le disais, INADES, en tant qu'association sans but lucratif et qui travaille pour la promotion de la solidarité entre les peuples, notamment au niveau du Burundi, c'est une organisation qui a travaillé depuis 1975 et qui a comme mission principale travailler pour la promotion socio-économique des populations défavorisées et pour leur permettre de participer et à la transformation de leur société. Ici, nous soulignons beaucoup la transformation de la société parce que la population doit vraiment prendre en main sa destinée, son développement. Et nous parlons surtout d'autopromotion.
Donc, vos actions, elles sont surtout envers des populations rurales. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation actuelle du Burundi dans les zones rurales où vous intervenez?
Oui, merci beaucoup. D'abord, je dois dire que le Burundi, c'est un pays qui est situé dans les Grands Lacs. Et pour ceux qui ne connaissent pas les Grands Lacs, nous avons le Burundi qui est entouré par au sud. Sud-est, c'est la Tanzanie. À l'ouest, c'est la RDC. Et au nord, c'est le Rwanda. Donc, ce sont les pays qui composent la région des Grands Lacs. Et quand on parle des Grands Lacs, c'est une région où on trouve beaucoup de lacs. Et déjà, au Burundi, nous avons beaucoup de lacs. Donc, le principal, c'est le lac Tanganyika. Et puis, nous avons alors d'autres lacs au nord du pays, et autour de six lacs. Alors, INADES Formation Burundi, effectivement, travaille avec les populations rurales. Parce que le Burundi, c'est un pays à majorité agricole, parce que le secteur agricole occupe déjà plus de 90% de la population. Et le secteur agricole apporte au pays plus de 50% du PIB. Vous comprenez bien que l'agriculture et l'élevage, c'est un secteur quand même important, moteur du développement au niveau du pays.
Alors concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en place pour répondre aux enjeux du terrain?
Voilà. D'abord, notre approche pour vraiment toucher un grand public, parce que nous devons travailler sur la transformation de la société. Notre approche, c'est pour appuyer la transformation de la société, on doit essayer d'impliquer la population pour que la population soit responsable de ses destinées, de son développement. Et puis, nous avons alors le SADEV. Le SADEV, c'est notre approche stratégique, stimulation aux alternatives de développement au service du bien commun. C'est-à-dire que si la population doit s'engager à son développement, il faut créer des situations de stimulation pour qu'ils puissent identifier ces défis, mais aussi penser à la stratégie de résoudre ces défis pour essayer d'avancer en termes d'autopromotion.
Alors, vous êtes en France, Joseph, dans le cadre d'un programme qu'on appelle TAPSA, une transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire. Oh là là, c'est tous des mots qu'il faut presque expliquer. Mais alors, dites-nous, de quoi il s'agit de ce programme TAPSA dans le cadre de l'INADES Burundi?
Oui, merci. D'abord, INADES Formation Burundi travaille beaucoup sur la promotion de la souveraineté alimentaire. C'est ça notre devise. Parce qu'en fait, vous savez, la population a besoin d'être dépendant sur tous les aspects, notamment comme souvent on utilise les produits chimiques, alors que d'abord ils ne sont pas accessibles à la population, alors ils sont aussi chers. Nous, nous encourageons la population à travers le projet TAPSA, transition vers une agroécologie paysanne au service du bien commun. Nous aidons la population à trouver des alternatives. Et parce qu'en fait, au lieu d'utiliser les produits chimiques avec tous les effets sur la santé de l'homme et sur l'environnement, et nous nous mettons ensemble avec les populations rurales, nous définissons les actions dans le cadre du projet TAPSA et les stratégies, comment on va y arriver, parce que nous avons notre objectif, c'est de réduire sensiblement l'utilisation des produits chimiques en proposant des alternatives, notamment la production des biofertilisants, mais aussi la production des biopesticides.
Alors, si j'ai bien compris, le programme TAPSA, ça vise vraiment à renforcer le mouvement en faveur de l'agroécologie paysanne et solidaire, en fait, pour soutenir le développement des systèmes agricoles et alimentaires d'une façon saine, juste et aussi résiliente.
Oui, et je dois dire que le projet TAPSA, c'est un projet qui a toutes les dimensions. Dimension économique, dimension sociale, mais dimension aussi environnementale. Alors, c'est pourquoi, en fait, toutes les actions qu'on mène dans le cadre du projet, ce sont des actions qui visent le développement intégral. Ici, je souligne intégral parce que nous devons toucher tous les aspects de l'homme.
Eh oui.
Oui. En fait, c'est pourquoi, en fait, parmi les grandes actions que nous développons, nous avons d'abord la gouvernance des ménages. Parce que nous savons que au Burundi, surtout, nous avons une inégalité de domination où l'homme veut dominer sa femme. Alors, à travers notre approche qu'on appelle conseil à l'exploitation familiale, nous faisons la formation en couple. C'est-à-dire que l'homme et la femme viennent ensemble à la formation pour qu'ils puissent suivre ensemble. Et puis, quand ils vont arriver chez eux dans le ménage, ils vont mettre en exécution tout ce qu'ils ont acquis pendant la formation. Ça facilite en fait la gouvernance dans les ménages parce que, vous savez, la gouvernance, ça demande vraiment des tacts pour ne pas déraper dans le ménage. Alors, nous avons aussi d'autres activités sur la macropropagation du bananier. Et parce que, vous savez, le bananier, c'est une culture principale au niveau du pays et parce qu'il apporte non seulement des revenus, mais aussi, il contribue beaucoup dans l'alimentation de la population. Et nous avons aussi des activités sur la chaîne de solidarité à travers la distribution des chèvres et des porcs. Et parce qu'au Burundi, je dois dire que la population est très, très nombreuse. Déjà, au niveau du pays, nous avons une densité énorme, une densité de plus de 400 personnes par kilomètre carré.
Ah oui. C'est un petit pays, mais avec une dense population.
Oui. Alors, avec cette densité, il y a quand même une pression sur la terre. Alors, avec cette pression, il faut alors chercher des stratégies et des alternatives pour réduire la pression de la population sur la terre. C'est ainsi que, avec la chaîne de solidarité en distribuant les animaux à travers le projet TAPSA, la population a accès facilement à la fumée organique pour rentabiliser la terre.
Merci Joseph de tout ce que vous nous dites là. Peut-être avant de conclure, un petit message pour nos auditeurs.
Oui, merci. Un message que je pourrais lancer aux auditeurs, c'est que nous sommes contents de la collaboration avec CCFDT Solidaire, et parce que c'est une organisation qui nous aide à être près de la population, et la population qui est vraiment, qui a un besoin, qui exprime beaucoup de besoins sur tous les aspects. Et c'est-à-dire que c'est un souci de satisfaction par rapport à la collaboration avec CCFDT Solidaire, parce qu'il mobilise tous les moyens pour venir en aide à la population du Burundi.
Merci Joseph pour cet échange instructif. On vous souhaite un bon séjour dans la région, puis on va retenir que la solidarité internationale est vraiment essentielle pour construire un monde plus juste et durable. Merci Joseph.
C'est moi qui vous remercie.
Eh bien, voilà qui est dit. C'était la chronique solidairement vôtre de Anne Deslois. Dans quelques instants, nous retrouvons Catherine Albrecht qui va nous présenter un auteur, une auteure, en l'occurrence cette semaine, Simone Arnaud-Houmet. On la retrouve juste après Laurent Voulzy.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent. Et mon cœur s'égare, un amour subtil l'a pris. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Charles, j'aurais aimé vous plaire, et je désespère de soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges, et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Au bois dormant,
Radio Présence à Auch 89.6.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Simone Arnoux-Humain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs milliers de personnes fuyant l'occupation ont quitté la France par les Pyrénées. Familles juives, réfractaires au service du travail obligatoire, résistants, aviateurs anglo-américains. Des réseaux d'évasion ont été organisés sur toute la chaîne. Les passeurs, des montagnards locaux, connaissaient les chemins détournés vers les cols frontaliers. Mais atteindre l'Espagne par ces sentiers d'altitude n'était pas toujours facile pour des citadins. Parfois, des familles accompagnées d'enfants, pour la plupart peu habituées à la marche en montagne. Les rafles organisées par le régime de Vichy à l'été 1942 dans la zone libre, puis l'occupation de tout le territoire par les Allemands en novembre, poussent les familles juives jusque-là assignées à résidence, à Lourdes, Cotteret, Aulus-les-Bains, à fuir rapidement pour échapper à la déportation. En juin 1943, c'est par la vallée d'Or et le port de Baroud, à plus de 2500 mètres d'altitude, que 18 évadés, dont deux femmes, ont passé la frontière espagnole après plusieurs jours de marche avant d'arriver à Bielsa, dévastée par les combats de la guerre civile. L'une d'elles, Simone Arnoux-Humain, institutrice originaire des Vosges, a fait le récit détaillé de cette fuite vers l'Espagne par la haute montagne. Nous retrouvons la petite troupe le soir du deuxième jour, près du village d'Olon, à la recherche d'un abri pour passer la nuit. Mercredi 16 juin 1943. Comme il est fier et dur le vent froid de la nuit qui souffle autour de nous. Mais de quel goût de liberté il est chargé. Nous repartons sans grand espoir dans la lumière bleutée de la lune. Voici qu'un chemin pierreux s'offre à nous. Il descend vers un village, sans doute au long. Nous passons près de maisonnettes endormies et silencieuses. Il est peut-être minuit. Nous sommes là. Pour l'instant, le chemin est sans issue. Voici une petite maison. Nous en approchons prudemment. Pas de chien. Mais si elle est habitée, si les gens se mettaient à sortir, autant de points d'interrogation qui modèrent nos pas. Nous sommes néanmoins si fatigués, nous poussons la porte. Une bonne odeur chaude de bête, de fumier et de lait nous souffle au visage. Des animaux bougent, des clochettes tintent. Vite, nous grimpons tous les 15 dans le grenier à foin. À cette saison, la couche est mince, mais qu'importe. Nous sombrons immédiatement dans un profond sommeil. Jeudi 17 juin 1943. Des clochettes qui tintinabulent, des chaînes qui se tirent, des sabots claquant sur le ciment, des voix de femmes, c'est l'étable qui se réveille. De notre refuge, l'on entend le piétinement des bêtes qui se pressent vers la porte pour retrouver l'air frais et l'herbe mouillée. De chauds relents de bêtes montent jusqu'à nous. Peu à peu, les têtes émergent de la paille. Nous sortons péniblement de ce bienheureux sommeil. Et ce retour à la réalité, oserais-je dire qu'il fut douloureux. Douloureux dans nos muscles, dans nos reins, douloureux dans nos esprits. Il va falloir recommencer à penser. Pour l'instant, c'est l'inquiétude qui domine. Nous nous consultons, faut-il révéler notre présence? Faut-il attendre leur départ? Mais si elles montent, vont-elles se fâcher? Finalement, un camarade se décide et descend avertir la fermière. Nous attendons avec angoisse. Il reparaît bientôt et nous crie « Descendez tous !» Du ton que cela a été dit, nous sommes soulagés et c'est la ruée vers l'échelle. En bas, nous trouvons au milieu de ces seaux de lait une paysanne, au visage ridé, à la bouche édentée. Mais son regard rit bienveillant. J'avais bien vu à la porte ouverte que vous étiez passé par là. Mais comme il en passe tous les jours, je n'ai pas fait attention. Je vous croyais déjà parti. D'habitude, ils s'en vont avant le jour. Tout cela est dit avec cet accent chantant des Pyrénées qui me ravit. Pour elle, tout est naturel. Soulagée, nous rions de nos frayeurs que nous lui avouons. C'est que, reprend-elle, il y en a tellement des gars du pays qui s'en vont comme vous. J'ai deux fils déjà partis. J'ai eu des nouvelles du premier,
Mais si jamais vous rencontrez le deuxième dont elle nous dit le nom, dites-lui qu'il écrive. Le ton est calme, rien n'apparaît de ces angoisses de maman. Pour nous, les fantasmes de la nuit sont dissipés, à nouveau tout est redevenu naturel, normal. Pendant ce temps, les quarts se sont remplis de lait et nous dégustons à tour de rôle ce bon lait chaud, parfumé et crémeux. J'ai même droit à la double ration. Maintenant que nous sommes rassurés, restaurés, désengourdis, nous abordons les choses sérieuses, c'est-à-dire la route, la direction à suivre, nos chances. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Simone Arnaud-Hume. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Voilà pour cette chronique littéraire hebdomadaire proposée par Catherine Albrecht. Et c'est avec elle que s'achève ce Présence Midi. Merci d'être fidèle à nos programmes. Il est 12h57 et 25 secondes, très exactement. Très très bon appétit si vous êtes à table. Très belle après-midi à vous tous à l'écoute de nos programmes.
À Cahors, 92.5.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Chute d'un drone russe sur une ville de Roumanie. Deux personnes ont été blessées. Une escalade, un acte.